Chapitre 3. Horace Velmont, duc d'Auteuil-Longchamp. À pas feutrés, retenant son souffle, Victoire, la vieille nourrice, entra dans la salle de bain où son maître, enveloppé d'un peignoir multicolore, dormait sur un divan. Sans ouvrir les yeux, il grogna. Mais pourquoi tant de précautions? Oh, tu peux claquer les portes, casser les assiettes, danser un foxtrot ou taper de la grosse caisse. Je me réveille jamais qu'au moment que je me suis fixé. Allez, à tout à l'heure, Victoire. Enfonçant davantage sa tête dans les coussins, il se rendormit en toute sécurité. Victoire le contempla longuement avec extase, murmurant. Quand il dort, il n'y a pas son petit sourire gouailleur ou cet air d'énergie agressive qui lui sont particuliers à l'état de veille et qui m'inquiète toujours un peu, moi, sa vieille nourrice, qui depuis tant d'années n'ai jamais pu m'y habituer. Elle reprit enfin pour elle-même, il dort comme un enfant. Ah, voilà qu'il sourit. Sûrement il fait de beaux rêves. Sa conscience est en repos, cela se voit. Comme son visage est calme, et ce qu'il paraît jeune, dirait-on jamais qu'il a près de 50 ans? Elle n'achève pas, le dormeur l'a entendu. Il sursaute, la saisit à la gorge. « Mais vas-tu te taire ? » crie-t-il. « Est-ce que je vais dire ton âge au charcutier du coin, qui te fait la cour ?» Victoire est suffoquée d'indignation surtout, car la main d'Hercule qu'il a prise au cou se garde de serrer. « Le charcutier du coin, oh ! Mais tu me diffames en criant mon âge ridicule ! Il n'y a personne ici, mais ni à moi, moi qui n'ai même pas 30 ans, alors pourquoi me blesser avec des chiffres dérisoires ?» Il se rassoit sur son divan, bâille, boit un verre d'eau, embrasse la nourrice avec une tendresse d'enfant et s'exclame « Mais jamais je n'ai été si heureux, Victoire !»« Pourquoi donc, mon petit ?»« Parce que j'ai arrangé ma vie. Elle n'est plus d'aventure. Celle de Victor et celle de la Cagliostro seront les dernières. J'en ai assez. J'ai mis ma fortune à l'abri et j'en veux jouir sans embêtement, grand seigneur milliardaire. » Et j'en ai également assez de toutes les femmes, assez d'amour, assez de conquêtes, assez de petites fleurs bleues, assez de sérénades, assez de clair de lune, assez de tout, j'en suis excédé. Donne-moi une chemise empesée, mon habit numéro 1. As-tu ça ? Oui, Horace Velmont, unique descendant d'une ancienne famille de navigateurs français, émigré au Transvaal et qui s'y est enrichi par les plus honnêtes procédés, se rend ce soir à la grande fête annuelle du banquier Engelmann. Laisse-moi m'habiller et me faire une beauté, ma vieille. » À 10h30, Horace Velmont arrivait devant le luxueux immeuble du faubourg Saint-Honoré qui abrite à la fois la banque Engelmann et les appartements du banquier. Ayant passé sous la voûte entre les corps de bâtiments réservés au bureau, il pénétra dans la cour bordée par les ailes réservées à l'habitation et qui se prolonge par la pelouse d'un de ces beaux jardins qui s'étendent jusqu'aux Champs-Élysées. Deux vélums étaient tendus au-dessus de cette cour et de cette pelouse. Tout le fond était occupé par une foire avec chevaux de bois, balançoires, attractions de toutes sortes, baraques d'exhibition de phénomènes, rings réservés à la boxe et à la pittoresque lutte libre. Dans ce cadre éblouissant de lumière, des centaines de personnes se pressaient. Trois orchestres et trois jazz faisaient rage. Dès l'entrée, Engelmann recevait ses invités. Jeune encore, sous ses cheveux blancs, la figure nette et rose, l'air photogénique d'un financier américain de cinéma, il avait échauffé sa situation sur la base solide de 3 faillites supportées avec art, honneur et dignité. Non loin de lui se trouvait sa femme, la belle Madame Engelmann, comme l'appelaient ses innombrables admirateurs. Horace serra les mains du banquier. « Bonjour, Engelmann !» Engelmann répondit avec d'autant plus d'amabilité qu'il semblait incapable de mettre un nom sur ce visage. « Bonjour, cher ami, comme c'est aimable à vous d'être venu !» Le cher ami esquissa le mouvement de s'éloigner, puis revint sur ses pas et lui dit à voix basse « Sais-tu qui je suis, Engelmann ?» Le banquier réprima un tressaillement et répondit du même ton « Ma foi, je ne sais pas trop, tu as tant de noms. Mais je suis un monsieur qui n'aime pas qu'on se foute de lui, Engelmann. Or, sans avoir aucune preuve formelle, j'ai l'impression que tu me trahis. » « Moi, vous te trahir ?» Des doigts d'acier s'incrustèrent dans son épaule avec l'apparence de faire un geste amical, et la voix basse s'ajouta durement. « Écoute-moi, Engelmann, le jour où je serai fixé, je te briserai comme verre. Tu n'existeras plus. En attendant, je te donne une chance. Mais je choisis comme gage de ta fidélité ton admirable compagne. » Le banquier blêmit, mais il était en public, chez lui. Il se domina vite et reprit son sourire mondain. Cependant, Horace avait passé, et il s'inclinait à présent devant la belle Madame Engelmann. Avec une parfaite aisance de grand seigneur et une galanterie étudiée, il lui baisa la main et, se redressant, murmura « Bonsoir, Marie-Thérèse. Alors, toujours jeune ? Toujours séduisante, toujours vertueuse ?» Il raillait, elle sourit, et murmura avec une pareille ironie, « Et toi, beau ténébreux, toujours honnête ?»« Bien sûr, l'honnêteté est une de mes parures, mais ce n'est pas ce que les femmes préfèrent en moi, n'est-ce pas, Marie-Thérèse ?»« Fat !» Elle avait légèrement rougi en haussant les épaules, et lui, d'un ton plus sérieux, conclut, « Surveille ton mari, Marie-Thérèse, crois-moi, surveille-le. »« Mais qu'y a-t-il donc ?» balbutia-t-elle. « Oh, il ne s'agit pas de galanterie. Comment être infidèle à la belle Marie-Thérèse ? Non, il s'agit de choses plus sérieuses. Donc, crois-moi, surveille-le. » Horace, souriant et content de lui, s'éloigna vers les attractions du jardin. Quelque temps parmi la foule, il se promena. Il y avait beaucoup de jolies femmes. Il sourit à quelques-unes d'entre elles qu'il avait connues. En lui rendant son sourire, plusieurs rougirent légèrement et le suivirent des yeux. Il semblait décidé à s'amuser. Il fit un tour de chevaux de bois, puis s'approcha d'une baraque de lutteurs. Un vieil athlète en maillot rose et caleçon de peau de tigre venait de se casser le poignet en luttant contre un énorme professionnel fanfaron et brutal. Horace, le chapeau à la main, quêta pour le vieil athlète, puis entra dans la baraque et bientôt reparut sur le ring, en maillot lui aussi, ce qui permit d'apprécier l'harmonie de sa musculature onduleuse et souple. Il défia le lutteur colossal et, en deux reprises, le tomba selon les meilleures méthodes japonaises. Le public enthousiasmé l'acclama, et quand il ressortit en habit de la baraque, l'entoura avec curiosité. Le sourire aux lèvres, il s'éloigna vers la piste où évoluaient les danseurs. Un couple attirait surtout par son agilité acrobatique l'attention du public qui faisait cercle. Horace regardait, lui aussi, avec intérêt, quand un monsieur s'approcha et se glissa devant lui. Le monsieur était de très haute taille. Horace ne vit plus rien, il se déplaça. Le monsieur, au bout d'un moment, fit de même, et de nouveau fit écran. Horace allait protester quand, dans la foule, il y eut un remous. Le monsieur recula, marcha sur le pied d'Horace. Oh, il ne l'avait pas fait exprès, mais il n'y prit aucunement garde. « Bon, s'excuse, sacrebleu !» grommela Horace. Le monsieur se retourna. C'était un jeune homme, mince, élégant, verni, calamistré, tiré à quatre épingles, du reste joli garçon, avec un collier de barbe frisée, encadrant un dur visage de levantin. Il regarda Horace, mais ne s'excusa pas. La danse finissait, l'orchestre en entama une autre, un tango. Le levantin s'inclina alors devant une jeune femme très belle, au type anglo-saxon, qui se trouvait à quelques pas et dont Horace avait remarqué la grâce onduleuse. Elle parut hésiter une seconde, puis accepta l'invitation. Tous deux dansaient avec tant de perfection qu'on fit cercle pour les voir. Quand le levantin eut ramené la jeune femme à sa place, il vint de nouveau se planter devant Horace Velmont. Mais cette fois, Horace, à bout de patience, le saisit par le bras et le repoussa. Le levantin, irrité, se retourna vivement. « Monsieur ! Mais quel goujat ! » dit Velmont. L'homme rougit de colère et dit avec hauteur. « C'est une affaire, peut-être ? Non, une constatation. Mais je me regarde comme offensé. Je l'espère bien. » Le levantin, avec un grand geste digne, tira une carte de sa poche. « Conta Matit Diamato. Votre nom, monsieur ? Archiduc d'Auteuil-Longchamp. » Les gens s'attroupaient. Ils rirent, amusés par le sang-froid gouailleur d'Horace Velmont. Le levantin, furieux, avait rougi. Il demanda « Votre adresse, monsieur ?»« Ici, ici. » « Oui, dans les affaires graves, et celle-ci me semble très grave, je règle toujours aussitôt et sur place. Vous vous dites l'offensé, soit. Quelle arme choisissez-vous ? L'épée, le pistolet, la hache d'abordage, le poignard empoisonné, le canon, l'arbalète modèle 1430 ?» On riait de plus en plus autour d'eux. L'étranger, sentant que le ridicule le menaçait avec cet adversaire blagueur et déterminé, domina sa colère et répondit froidement « Le pistolet, monsieur. Allons-y. » Ils étaient tout près d'un tir forain, muni de cibles, de pipes et de jets d'eau, où sautillaient des coquilles d'œufs. Horace prit deux de ses longs pistolets, Flaubert a deux coups qui datent du Second Empire, les fit charger sous ses yeux et présenta l'un d'eux au comte Amalti en lui disant avec gravité « Oh, dès que deux coquilles d'œufs seront abattues, l'honneur sera sauf. » Le levantin hésita une seconde puis se résigna à la plaisanterie. Il prit le pistolet, visa longtemps et manqua son coup. Horace lui enleva le pistolet des mains et, tenant les deux armes négligemment au bout de ses bras tendus, sans viser, pressa les détentes et abattit deux coquilles d'œufs. La foule poussa une acclamation. « L'honneur est sauf, monsieur, dit Horace. Nos deux coquilles ont roulé sur le terrain. » Et il tendit la main au comte Amalti, qui prit le parti de rire et répondit « Bravo, monsieur, de l'esprit et de l'adresse, c'est plus qu'il ne m'en faut. J'aurai plaisir à vous revoir. » Pas moi, fit avec sérénité Horace, qui s'éloignait rapidement afin d'échapper à la curiosité du public. Il se promena un moment dans un coin relativement désert du jardin et se disposait à se rapprocher de la sortie quand une main se posa sur son épaule. Puis-je vous parler, monsieur ? Dit une voix féminine. Horace se retourna. « Ah, la belle dame anglo-saxonne » s'exclama-t-il d'un ton ravi. « Américaine et demoiselle » répondit-elle. Il s'inclina, cérémonieux. « Dois-je me présenter, mademoiselle ?»« Inutile, » dit-elle en riant. « Archiduc d'Auteuil-Longchamp me suffit parfaitement. » « Très bien, mais moi, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mademoiselle. »« Êtes-vous bien sûr ? Voyons. » Nous nous sommes rencontrés dans l'escalier d'une maison à New York. Vous ne vous souvenez pas? En outre, je vous observe depuis 1 heure. Une surveillance, alors? Oui. Et pourquoi? Parce que vous êtes certainement l'homme que je cherche depuis quelques jours. Mais quel homme cherchez-vous? Celui qui peut me rendre un grand service. Oh, je suis toujours l'homme qui peut rendre un grand service à une jolie femme, indiqua Horace, toujours galant. Mademoiselle, je suis à vos ordres. Il lui offrit son bras et la conduisit parmi la foule jusqu'à cet endroit relativement désert d'où il venait. Sous les arbres du jardin, ils s'assirent. Vous n'aurez pas froid ici? Demanda Horace. Oh, je n'ai jamais froid, répondit-elle, en écartant la gaze qui couvrait ses épaules nues. Merci, dit Horace avec conviction. Elle fut étonnée. Merci de quoi? Ben, du spectacle que vous me permettez de contempler, rudement beau, un marbre grec. Elle fronça les sourcils en rougissant légèrement et ramena la gaze sur ses épaules. « Vous voulez bien m'écouter sérieusement, monsieur ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Certes, j'aurais tant de joie à vous être utile. »« Alors voici. Je suis attaché à un grand journal de police américain. Cela m'a valu d'être mêlé à une affaire criminelle dont les derniers épisodes se sont déroulés en France. L'affaire McAlermy. Après avoir réussi dans ma collaboration au journal, avec un succès au-delà de tout espoir, je me débats à présent depuis 2 mois en efforts qui n'aboutissent à rien. Alors ne sachant plus que faire, je suis allé il y a 2 jours voir à la préfecture de police un brave inspecteur qui m'avait aidé déjà de ses conseils. Cette fois-ci, il a fini par s'écrier « Ah, si vous aviez la collaboration de machin !» « Machin ?» demanda Horace. « C'est ainsi, me dit l'inspecteur, que nous appelons un type extraordinaire qui s'amuse parfois à travailler avec nous. Son nom, nous l'ignorons, de même que sa physionomie véritable. C'est un homme du monde, paraît-il, un grand seigneur, fort riche. Il agit toujours de façon singulière et il est d'une force physique et d'une adresse incroyable, en outre d'un calme que rien ne trouble jamais. » Mais où le trouver? Ah, tenez, le baron Engelmann donne demain dans son hôtel du Faubourg Saint-Honoré la fête annuelle où il convie tout Paris. Certainement Machin sera là. À vous de le démasquer et de l'intéresser à votre entreprise. Alors vous êtes venu ici, dit Horace, et comme vous m'avez vu tomber un athlète forain, faire la quête et me battre en duel contre des coquilles d'œufs, vous vous êtes dit, voilà Machin. Oui, répondit l'américaine. Eh bien, mademoiselle, je suis en effet Machin, et tout à votre service. Merci. Alors, je commence. Connaissez-vous un peu l'affaire américaine dont je viens de vous parler? Oh, l'affaire McAlermy, un peu. Et comment l'avez-vous connue? J'ai lu à ce sujet un article publié par une femme. Oui, par moi, Patricia Johnston. Oh, tous mes compliments! Sans réserve, demanda Patricia, mise en éveil par le ton de l'éloge. Si, avec une réserve. L'article était trop bien fait, trop littéraire, trop mis en valeur. En matière de crime, j'aime le récit direct, pas raconté, pas enjolivé, sans recherche de l'effet, sans préparation des coups de théâtre. Le roman policier m'endort. Elle sourit. Tout le contraire des conseils que me donnait M. Allermy, dont j'étais la secrétaire. Mais passons, voici ce que j'ai appris. Brièvement, elle raconta les faits. Il écoutait attentivement, sans la quitter des yeux. Quand elle eut fini, il dit Comme je comprends bien maintenant. Mon explication est plus claire que mon article. Non, mais vous la donnez avec vos lèvres, et vos lèvres sont délicieuses. Elle rougit encore et, mécontente, murmura « Oh, ces Français, toujours les mêmes !»« Toujours, mademoiselle, » déclara-t-il tranquillement. « Je ne puis réellement causer avec une femme à cœur ouvert qu'après lui avoir dit ce que je pense d'elle. Question de loyauté, vous comprenez. Bien maintenant que j'ai rendu hommage à votre beauté, à vos épaules et à vos lèvres, concluons, qu'est-ce qui vous embarrasse ?»«
Tout !»
Depuis le quatrième crime commis à Portsmouth, rien de nouveau.
Non, rien.
Aucun indice.
Aucun. Voilà près de 3 mois que je suis à Paris et 3 mois que je cherche en vain.
C'est votre faute ?
Ma faute.
Oui, le hasard vous a fourni des faits dont vous n'avez tiré qu'une certaine partie de la vérité.
J'ai tiré des faits tout ce qu'on pouvait en tirer.
Non, la preuve, c'est qu'en vous écoutant, j'en ai tiré davantage, moi. Donc, si vous êtes en panne, c'est votre faute. Il y a eu négligence de votre part, paresse d'esprit.
Et en quoi j'étais négligente et paresseuse ? Demanda Patricia, un peu offensée.
Bien, vous avez accueilli trop vite l'explication du nom de Paul Sinner. Sinner veut dire pêcheur. Donc vous en avez conclu que Paul Sinner veut dire Paul la pécheresse. Explication sommaire, explication trop facile. Il fallait pénétrer plus avant dans la réalité et se souvenir de ce qu'avait fait jadis le sieur Arsène Lupin.
Me connaissez-vous ?
Oui, par la lecture de ses exploits, oui, comme tout le monde.
Mais personnellement, je ne crois pas le connaître.
Vous perdez beaucoup, dit Horace gravement.
Qu'a-t-il fait ? Demanda-t-elle, curieuse.
Oh, pour s'amuser, il lui est arrivé 2 fois de brouiller les lettres de son prénom et de son nom et de les reconstituer sous une autre forme, ce qui lui a permis pendant un temps d'être le prince russe Paul Cernin et plus tard d'être le noble portugais Luis Perenna. Personne ne s'en est douté.
Tout en parlant, Horace avait tiré de son portefeuille quelques cartes de visite qu'il déchira en 2, fabriquant ainsi 11 petits cartons sur chacun desquels il écrivit une lettre des 2 mots « Paul Sinner ». Puis il offrit le tout à la jeune femme en disant « Lisez dans l'ordre ». Elle lut les 11 lettres à haute voix « A-R-S-E-N-E-L-U-P-I-N.
« Mais qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria-t-elle confondue.
« Cela signifie, jolie demoiselle Patricia, que les 11 lettres du nom d'Arsène Lupin lui ont servi à fabriquer un prénom et un nom de 11 lettres, Paul Sinner. »«
Ah, par conséquent, Paul Sinner n'existe pas ? » dit Patricia.
Horace hocha la tête.
« Elle n'existe pas. Simple formule de passe et de ralliement que vous avez attribué fort bien à la bande de New York. »
Formule qui en réalité recouvrait le nom d'Arsène Lupin.
Oui, c'est cela.
Et alors lequel Arsène Lupin joue un rôle dans l'aventure, un rôle de chef bien entendu.
Non, je ne crois pas. Évidemment, c'est ainsi que l'affaire semble devoir être présentée, mais outre les habitudes pacifiques de Lupin, qui ne s'accorderait pas avec les 4 crimes déjà commis, je suis fondé à croire que l'association, qui a l'air d'être sous la direction de Lupin, a été fondée au contraire pour l'embêter. Œuvre morale, vous a dit McAlermy. Pour des puritains comme lui et Frederick Flights, est-il œuvre moins, plus morale, plus méritoire que de s'attaquer à un malfaiteur, de lui faire rendre gorge et de donner à l'association la forme illimitée que peut donner entre des mains expertes l'énorme fortune de Lupin. Soit qu'on la lui dérobe, soit qu'on le fasse chanter. La mafia contre Arsène Lupin, telle est, me semble-t-il, la devise, le mot d'ordre, la directive de cette nouvelle croisade.
le mécréant, l'infidèle, le sarrasin, qu'il faut combattre et détruire, me semble être en l'occurrence le sieur Arsène Lupin, et les croisés, les Godefroy de Bouillon, les Richard Cœur de Lion, les Saint-Louis qui se sont enrôlés pour conquérir Jérusalem, c'est Macalerby, c'est Frédéric Fine, c'est le Sauvage. N'êtes-vous pas convaincu comme moi ? Oh, si, dit-elle en toute sincérité. Tel que je connaissais Macalerby, je le vois fort bien s'élançant dans la lutte pour abattre l'antéchrist que représentait à ses yeux Arsène Lupin.